cobuzz.com. Rencontre par Marc Zisman.
Bonjour Pierre Brévignon.
Bonjour.
Pierre Brévignon, vous publiez un ouvrage, un gros ouvrage, un gros pavé, qui s'intitule Samuel Barber, un nostalgique entre deux mondes, qui paraît aux éditions Hermann. Vous êtes un peu monsieur Barber en France, pas qu'en France d'ailleurs, on pourrait dire. Je sais pas si c'est une étiquette qui vous colle à la peau. Vous êtes auteur, vous avez été l'auteur notamment du dictionnaire superflu de la musique classique.
Co-auteur.
Co-auteur, oui. Paru au Castor Astral. Vous êtes également le fondateur de Capricorne, qui est l'association justement des amis de Samuel Barber.
Absolument.
Ça tombe bien.
Oui, coïncidence.
Vous collaborez également à Classica. Alors vous mettez évidemment rapidement dans le livre le doigt sur un point assez crucial et qu'on ramène toujours sur la table, c'est qu'effectivement ce Samuel Barber, qui je le rappelle né en 1910, est mort en 1981, on a toujours tendance à, dès qu'on prononce son nom, à rajouter l'adagio pour cordes et hop, on ferme le chapitre et on passe au suivant. Donc votre ouvrage qui fait combien de pages à peu près?
Il y a 7354 pages.
Plus de
500.
Voilà, 400-500 pages truffées de documents, même iconographiques. Il y a une belle iconographie. Il y a également un CD avec des documents plus qu'intéressants. Alors, avant peut-être de rentrer dans le vif du sujet, on pourrait peut-être se poser la question, comment vous êtes rentré en religion Barber?
Écoutez, alors comme 99,9% des gens qui aiment Barber, en allant au cinéma et en voyant Platoon d'Oliver Stone, dans lequel Stone fait un usage extrêmement récurrent de l'adagio, au point presque de vous en dégoûter, un peu comme Visconti a pu peut-être dégoûter les gens de malheur avec son adagietto ressassé ad nauseam. Mais là, en l'occurrence, quand j'ai vu ce film, j'ai pas du tout été écœuré, j'ai été extrêmement séduit et intrigué aussi avec l'envie quand même de découvrir ce que ce compositeur que je ne connaissais pas avait composé d'autre. Donc par chance, l'adagio, on en trouve assez facilement des enregistrements, que ce soit historiques ou modernes. Donc j'ai dû acheter mon premier CD Barber, ça a dû être l'adagio plus le concerto pour violon par Bernstein, dirigeant le New York Philharmonique, avec Stern comme soliste pour le concerto. Donc on va dire que ça me donnait déjà un aperçu de ce que pouvait être un compositeur néo-romantique américain. Et puis par la suite, ce qui vraiment m'a accroché et m'a montré que Barber n'était pas seulement le compositeur de belle musique éventuellement un peu sentimentale et voire sirupeuse, toutes les sont mal jouées, c'était le Knoxville Summer of 1915, chanté par Eleanor Stabler. Où là vraiment je dirais qu'on pénètre dans une autre dimension à la fois musicale, poétique, presque philosophique, et une fois que j'avais ces trois œuvres là dans ma discothèque, il a fallu que j'achète le maximum de choses sur ce compositeur. Et là encore, la grande chance, c'est qu'effectivement on parle toujours de l'adagio, mais l'ensemble de l'œuvre de Barber, qui tient en une quarantaine d'opus, est constamment disponible au disque dans toutes sortes de versions, qui sont en général toutes des versions au pire intéressantes et au mieux vraiment, vraiment séduisantes et très réussies. Donc il est assez facile finalement de se constituer en peu de temps une intégrale Barber, et je ne m'en suis pas privé.
Alors effectivement, c'est un peu un ovni, on l'apprendra en détail en parcourant ces 500 pages, ce Samuel Barber, un ovni qui, dans la petite palette des différents courants et compositeurs, on peut dire, du XXe siècle, il est un peu ailleurs, en fait, d'une certaine manière. Il ne suit pas spécialement Gershwin avec ses bifurcations, l'orient vers le jazz, ni Bernstein, ni même tout ce qui est expérimental du côté que ce soit d'Eliot Carter ou de John Cage ou autre. Pas vraiment non plus le rattacher à Charles Ives ou à Copland. Enfin, il est vraiment ailleurs. En même temps, c'est vrai qu'il a une vie. Alors, vous mettez au début de votre livre, je cite cette phrase donc de Barber d'octobre 1971. Il y a plusieurs années de cela, quelqu'un a écrit un livre sur moi. Une fois le texte terminé, les épreuves ont été envoyées à ma sœur. Peu de temps après, elle m'adressait le télégramme suivant. Empêche la publication de ce livre, stop, tu es ennuyeux. Mais pas à ce point, stop. Alors évidemment, heureusement, quand on lit votre livre, il y a quand même quelques anecdotes qui font que on zappe un peu l'ennui. Vous mettez aussi, effectivement, par rapport à ce côté un peu ovni, et c'est vrai que le fait que ces œuvres soient peut-être moins jouées, ou peut-être recommencent à être jouées, c'était le cas, Cham l'a joué à Pleyel il y a un mois, et Kissin le jouera le mois prochain au TCE. Ouais. Vous dites, ce livre est aussi le récit d'un échec.
Ouais. C'est-à-dire que mon éditeur, quand il a vu à la fois la citation que j'ai placée en exergue sur la vie ennuyeuse de Barber, et quand il a lu mon avant-propos où je parle de l'échec de Barber, il s'est dit « Ok, peut-être qu'on va essayer de changer un peu l'orientation, mais en même temps, c'est quand même vrai. Barber est un homme qui est un artiste qui toute sa vie a connu des succès. C'est-à-dire que pendant une trentaine d'années, toutes les œuvres qu'il a composées ont été créées par de grands interprètes, ont été accueillies extrêmement chaleureusement et avec enthousiasme. À moins de 30 ans, on l'avait quasiment placé comme étant le porte-drapeau de la musique américaine et son meilleur ambassadeur à l'étranger. Et puis, est arrivé au milieu des années 60, le seul échec retentissant de la carrière de Barber, en l'occurrence la création de son opéra Antonia and Cleopatra. Et cet unique échec a finalement suffi à plonger presque l'ensemble de son œuvre dans une espèce, pas de déclin, mais en tout cas, lui a fait manquer le rendez-vous avec l'histoire. En gros, que tout le monde attendait de lui, on pensait vraiment que la création de cet opéra pour l'inauguration du nouveau Met au Lincoln Center serait le couronnement de sa carrière et vraiment le ferait passer dans une dimension, la dimension des plus grands compositeurs, je ne sais pas, l'équivalent d'un Beethoven, d'un Bach en leur temps. Et il a raté ce coche-là, et cet échec, qui finalement est assez... Enfin, ça arrive dans la vie d'un compositeur de connaître des fours. Cet échec, ce fiasco, a coloré, a teinté les 15 dernières années de la vie de Barber, et a surtout contribué à, on va dire, presque ringardiser son œuvre. Et en fait, les 15 dernières années de la vie de Barber ont été passées dans une espèce de solitude et de sensation de délaissement absolu qui ont notamment causé sa dépression et toute une série d'interrogations récurrentes chez lui qui étaient « Est-ce que ma musique continuera à être jouée et est-ce que finalement j'ai composé une musique qui était faite pour mon temps ?» Je pense qu'au fond de lui, il savait très bien qu'il n'écrivait pas une musique de son temps et c'était même le cadet de ses soucis. Mais sur la fin de sa vie, comme ça, il y a une espèce de moment d'angoisse où il s'est rendu compte que les compositeurs expérimentaux tenaient le haut du pavé. Un des faits symboliques et un peu dévastateurs pour lui, ça a été lorsque Boulez a pris la tête du New York Philharmonic. Et Barber s'est dit, mais voilà, si un homme comme Boulez dirige ce grand orchestre, c'en est fini de des compositeurs néo-romantiques, c'en est fini de mon adagio, on est fini de mes concertos. Et moi, ça m'intéressait de creuser cette notion assez paradoxale, finalement, d'échec. Et je pense que c'est ce qui... Ça fait une sorte de fil rouge dans mon livre, où on voit s'accumuler comme ça toutes sortes de consécrations. Mais au final, un peu comme l'Adagio est une œuvre qui fonctionne en crescendo, décrescendo, il y a une espèce de crescendo de succès, et puis au sommet de cette courbe de succès, le terrible échec d'Antonia and Cleopatra, et puis ce décrescendo terrible jusqu'à la fin d'une œuvre et la fin d'une vie.
Alors avant cet échec, ce fiasco, comme vous dites, de 66, je crois, c'est ça là.
66, septembre 66.
Comment il se situait par rapport justement à ses contemporains et même ses contemporains, j'allais dire, américains.
Ouais.
On parlait tout à l'heure de tous ces, j'ai cité quelques noms, ouais, de compositeurs un peu emblématiques, avec des courants un petit peu emblématiques. Lui était un peu ailleurs. Est-ce qu'il y avait vraiment ce côté, cet côté ailleurs? Il y avait ce romantisme totalement, enfin, mm-hmm, des romantismes totalement assumés et revendiqués, ouais, presque. Ouais. Comment il se situait par rapport à tout ça et comment il avançait dans ses créations? Il a aussi bien écrit des concertos de la musique pour orchestre, il y a de la musique de chambre, mm-hmm, des chansons, l'opéra, etc. Donc, des choses assez...
Oui, il a vraiment travaillé dans tous les genres ou presque. Mm-hmm. Moi, ce qui m'intéressait chez Barber, c'est justement son côté ailleurs, son côté misfit un peu. Vous savez, le film de Houston qui s'appelle Les Misfits, Les Désaxés. Pour moi, c'est la meilleure définition de l'homme et de l'artiste qu'était Barber, à savoir quelqu'un qui ne trouvait pas sa place dans le milieu artistique américain du XXe siècle et qui finalement s'en souciait assez peu. Lui, ce qui l'intéressait, c'était pas d'être rattaché à un mouvement, à une école, c'était pas d'être un porte-parole, c'était pas d'être un emblème d'un mouvement esthétique, c'était d'écrire une musique qui correspondait fidèlement à ce qu'il ressentait. Très tôt, il a eu sa grammaire musicale, et avec ce bagage technique extrêmement solide, acquis lorsqu'il était étudiant au Curtis Institute de Philadelphie, il a finalement travaillé sur toute une œuvre où sont passés en vue des affects, des sensations, des états psychologiques qui étaient les siens propres. Il a jamais cherché à écrire une musique qui soit expérimentale pour être expérimentale. Il a jamais cherché, sauf en de très rares et on va dire très ponctuelles occasions, à intégrer à son idiome, par exemple, des éléments du folklore américain. Ce qui l'intéressait, c'était vraiment d'écrire une musique qui était un petit peu son autobiographie, tout simplement. Et de ce point de vue-là, c'était une posture presque décevante pour ses collègues et ses confrères compositeurs, qui, eux, voulaient tous que leur musique soit une musique emblématique de l'Amérique du XXe siècle, d'une Amérique pionnière. Il y avait ça aussi qui était important au XXe siècle en Amérique, c'était que, de la même façon que le pays essayait de se doter de peintres et de sculpteurs qui seraient un petit peu les têtes de pont du renouveau artistique, l'Amérique se cherchait aussi des compositeurs capables de rivaliser en notoriété et puis en talent aussi avec les compositeurs européens qui, eux, avaient quand même une histoire beaucoup plus ancienne et une culture musicale beaucoup plus ancienne. Donc, en gros, se lancer dans la musique aux États-Unis au XXe siècle sans chercher à jouer sa partie dans la grande symphonie de l'Amérique était une posture totalement décalée et atypique.
Même dans la grande symphonie du monde, parce que c'est vrai que le XXe siècle, on peut dire que c'est quand même passé quelque chose en termes, non seulement artistiques,
deux, trois événements,
mais en termes d'actualité,
ouais,
il y a effectivement ce côté un peu d'être encore ailleurs et d'être complètement déconnecté des conflits, des courants, de la protestation, de toutes ces choses-là.
C'est-à-dire que Barber a été aux premières loges pour être le témoin et porter témoignage surtout des grands événements historiques de son pays et puis l'histoire du monde. Et finalement, pour le biographe, c'est presque décevant de se rendre compte qu'on ne peut pas associer la composition de telle sonate pour piano à tel événement historique. Quand on voit ce qu'il a composé à l'époque de la guerre du Vietnam, on est bien en peine de trouver des passerelles entre telle et telle œuvre et les événements historiques. Donc c'est là encore, pour moi, c'est quelque chose d'assez séduisant parce que c'est très atypique, très décalé, et en même temps il y a tout de même eu certaines œuvres qui sont explicitement rattachées à des événements historiques, même si pour Barber c'était secondaire. Il avait par exemple en horreur tout ce qui était musique programmatique. Mais lorsqu'il était caporal pendant la Seconde Guerre mondiale, affecté à une base de l'American US Air Force, oui, de l'US Air Force, pardon, il a composé, à la demande de ses supérieurs, une symphonie qui était censée retranscrire, en l'occurrence, les expériences des pilotes de chasse et des pilotes de bombardiers. Cette symphonie, qui a été intitulée au départ Flight Symphony, était censée être on va dire, l'équivalent américain de la symphonie, de la 7e symphonie de Shostakovich pour les Russes. C'est-à-dire vraiment la grande symphonie de guerre. Bon. Et puis finalement, cette Flight Symphony, elle a perdu d'abord son titre de Flight Symphony, elle est devenue la symphonie numéro 2. Et puis quelques années après sa création, Barber l'a renié, on a même détruit la partition. Gardons juste un mouvement qu'il a transformé en une sorte de poème symphonique pour lequel il a trouvé un titre pas du tout guerrier et pas du tout historique, mais un titre romanesque qui était « Vol de nuit » en hommage au livre de Saint-Exupéry. Donc, il y a quelques œuvres comme ça, ponctuelles, qui sont nées vraiment dans un contexte historique marqué, qui en portent un peu témoignage, mais elles sont très très marginales dans le catalogue de Barber. Il a aussi composé une œuvre pour chœur et timbale qui s'appelle « Stopwatch and an Ordnance Map », d'après un poème de Stephen Spender, poète anglais, qui relate l'expérience de Spender pendant la guerre d'Espagne. Mais là encore, c'est une œuvre assez marginale, très intéressante musicalement, mais on ne peut pas non plus en faire une exégèse pendant des heures et des heures en mettant en parallèle la guerre d'Espagne et cette œuvre-là. C'est une sorte d'inspiration ponctuelle.
Alors, il n'est pas totalement seul sur son île, puisque pour, quand on écrit de la musique, il faut ensuite qu'elle soit jouée, tant qu'à faire. Comme vous l'avez dit au début, il y a quand même des... C'est pas vraiment que des manchots qui ont créé ses œuvres. J'en citerai
aussi,
mais c'est Toscanini, par exemple, qui a créé la Adagio, Horowitz qui a créé la sonate pour piano. Mm-hmm. Quels étaient ces rapports, justement, pour revenir sur des choses concrètes, avec les interprètes, avec les musiciens, avec les chefs?
Oui, alors... Il concevait le travail sur une œuvre, quand elle était destinée à un interprète en particulier, comme un travail de collaboration. Ça a été le cas dès son plus jeune âge pour sa sonate pour violoncelle et piano, mais ça a été le cas aussi pour son concerto pour violoncelle, pour sa sonate pour piano, son concerto pour violon. Ce sont des œuvres qui ont été écrites en collaboration avec les solistes, en les interrogeant. gens régulièrement à chaque nouvel avancement dans la composition, en leur soumettant ce qui avait été fait, en leur demandant si ça leur convenait. Un des éléments récurrents dans la routine compositionnelle de Barber, c'était avant de se mettre à travailler une œuvre pour tel ou tel interprète, il faisait venir cet interprète chez lui, et par exemple Horowitz ou bien John Browning pour le solo pour piano, et il leur demandait de jouer absolument tout ce qu'ils pouvaient jouer. Et il essayait après de déterminer quel style irait le mieux pour Horowitz ou pour Browning, quelle difficulté technique pouvait leur être soumise. Et ensuite, voilà, c'était un travail vraiment de collaboration. Et parfois, c'était plus qu'une collaboration, c'était un travail dans lequel l'interprète jouait un rôle central pour aider Barber à finir ses œuvres. Parce que ça, Barber pouvait commencer très vite à travailler sur une œuvre, mais il avait les plus grandes difficultés à les achever. Le concerto pour piano, par exemple, qui est une œuvre d'une difficulté technique absolument redoutable, a été terminé 2 semaines avant la création. Et le pauvre Browning a dû travailler 24 heures sur 24, quasiment pendant 15 jours, sur l'œuvre complète pour la maîtriser. Il a conseillé Barber sur ce final. Il a été également aidé par Horowitz, qui est venu à sa rescousse pour expliquer à Barber, par exemple, que tel passage était injouable et qu'il fallait ralentir le tempo. Bon. Mais vraiment, on va dire que de la commande jusqu'à l'exécution finale, le travail avec ses solistes était un travail de collaboration, vraiment.
Quels étaient ses rapports justement avec ses contemporains, mais là cette fois-ci côté composition, comment il était perçu justement dans cette partie, j'allais dire, ou encore avant 66, où il enquillait les succès, ouais, etc. Ouais.
Alors, comme on peut l'imaginer, il était considéré avec admiration et envie, et parfois une certaine jalousie aussi, qui était probablement nourri également de rapports humains, on va dire, un peu complexes. Tous les témoignages qu'on a pu recueillir sur Barber montrent que c'était un homme extrêmement séduisant, très brillant, mais qui mettait du temps avant d'être en confiance, et qui, tant qu'il n'avait pas apprivoisé une nouvelle personne, un nouvel ami, pouvait se montrer extrêmement fuyant, distant ou cassant. Ça valait également pour nombre de ses confrères. Un bon exemple, c'est Bernstein, Leonard Bernstein, qui était le Wonder Boy qu'on sait, qui a été, comme Barber, un élève de Fritz Reiner au Curtis Institute. Mais contrairement à Barber, Bernstein, lui, est le seul élève de Reiner à avoir obtenu la meilleure note en direction d'orchestre, alors que Reiner avait été extrêmement sévère à l'encontre de Barber, lui disant qu'il ne ferait jamais un bon chef d'orchestre. Bon, eh bien, Barber était extrêmement admiratif du talent de Bernstein. Je pense qu'il lui enviait aussi son aisance dans les rapports humains, son côté extrêmement affable, extrêmement sociable. Et en même temps, ça creusait une distance entre les deux hommes. Et il y a un épisode assez étonnant, dans les années, à la fin des années 40, je crois, ou des années 50, je ne sais plus, mais bon. La femme de Bernstein souffrait de voir son mari dans une relation un peu difficile avec Barber. Et elle avait servi d'avocat, d'intermédiaire pour rapprocher les deux hommes. D'une façon assez maladroite d'ailleurs, puisque en vacances la petite île de Martha's Vineyard, où les deux hommes avaient une résidence, elle a proposé à Barber et à Bernstein de se voir à dîner tous les trois, tous les soirs pendant une semaine, chacun s'invitant tour à tour chez l'autre, en espérant que quelque chose, que la glace se briserait entre eux. Et en fait, la glace a plutôt pris davantage encore. Et au bout d'une semaine, Barber a dit à Felicia Montealegre, écoutez, je crois qu'on a fait le tour, on n'a vraiment pas grand-chose à se dire avec Leonard. Mais malgré ce froid dans les relations entre les deux hommes, Bernstein a été quand même un des grands avocats de la musique de Barber. Et en fait, on pourrait étendre ça à d'autres musiciens. Par exemple, le chef Thomas Schippers a été un des très très grands chefs de la musique de Barber. Et en même temps, de son propre aveu, il considérait qu'il n'avait jamais réussi à être l'ami de Barber, parce qu'il y avait une sorte de distance qui était mise et qui était maintenue entre lui et Barber. Et rares sont finalement les compositeurs à avoir réussi à nouer une véritable amitié avec Barber. Il y a William Schumann, Chez les Français, il y a eu Francis Poulenc, curieusement, mais quelqu'un comme Copland, comme Bernstein, sont restés, on va dire, des confrères admiratifs. Mais je pense que Barber était trop jaloux de sa, on va dire, de sa solitude, ou en tout cas de sa position un petit peu de compositeur en marge. Et finalement, il était bien à la marge, donc il ne trouvait pas le besoin de se rattacher l'appui d'autres compositeurs. Je pense que s'il avait été rattaché à une école, à un mouvement esthétique, là, pour le coup, il y aurait eu beaucoup plus de rapprochement avec les compositeurs. Il y a peut-être eu des manifestes signés à plusieurs. Mais lui, c'était vraiment un compositeur de la marge.
Alors, il y a une personnalité musicale qui a eu une importance quand même, puisqu'il a partagé sa vie. C'est Menotti.
Pardon.
En termes d'influence musicale, vous pensez quel rôle a joué sur lui? Et même à la rigueur, en étendant la question, même si le cas de Menotti évidemment est particulier, comment tout ce qui se passait autour de lui pouvait ou non l'influencer? Alors on a vu que tout ce qui était expérimentation évidemment le touchait assez peu. Comment il a évolué justement par rapport à ça?
Alors déjà par rapport à Menotti, je pense pas qu'il y ait une énorme influence musicale de l'un sur l'autre. On va dire qu'à l'époque où tous les deux étaient étudiants à Philadelphie, donc l'époque de leur rencontre, en gros, Menotti a initié Barber à tout l'opéra italien, et Barber a initié Menotti à la musique de Brahms, voilà, et au Lieder de Schubert. Voilà. C'était vraiment les deux pans musicaux que chacun ignorait, de par son éducation. Et voilà, il y a eu une espèce de mise en commun des connaissances. Mais en termes de construction de leur œuvre réciproque, il n'y a pas eu d'influence. Le rôle le plus notable et le plus important joué par Menotti dans la carrière musicale de Barber, c'était comme librettiste. Puisque Menotti, s'il n'était pas un très très grand compositeur de musique instrumentale et de musique orchestrale, était tout de même un très bon musicien d'opéra, avec un sens dramatique extrêmement sûr. Je pense que ces opéras, s'ils se maintiennent encore à l'affiche, c'est presque plus en raison de leur qualité dramatique que leur qualité musicale. Et ça, c'est précisément le sens qui faisait défaut à Barber, qui lui avait une sorte de talent inné pour l'écriture vocale, qui provenait en partie du fait qu'il avait suivi des études de chant. Il avait même failli être baryton à une époque. Mais en même temps, il n'était pas très très à l'aise pour tout ce qui était construction d'une intrigue, construction et découpage surtout d'une intrigue en plusieurs actes et avec des coups de théâtre, etc. C'était vraiment pas son truc. Du reste, il a toujours rêvé de composer un grand opéra, mais il a toujours eu les plus grandes difficultés à trouver le bon librettiste, la bonne histoire, et c'est du reste ce qui lui a joué des tours pour Antony and Cleopatra. Mais Menotti, lui, lui a vraiment fourni, en l'occurrence pour son premier opéra qui a été son premier grand succès, Vanessa, un livret qui était avec par ailleurs toutes sortes de faiblesses liées à une histoire somme toute assez bébête, faut bien le dire, lui a quand même donné un livret parfaitement construit, parfaitement adapté aux capacités musicales de Barber. Et je pense que si Menotti, comme ça avait été son souhait, avait composé le livret du second opéra de Barber, Antony and Cleopatra, peut-être que le succès aurait été au rendez-vous. Le problème, c'est que le travail a été confié à Franco Zeffirelli et qu'il a fait quelque chose d'assez peu satisfaisant, avec en plus, par là-dessus, ces visions de metteur en scène complètement mégalomane et délirant, qui là, pour le coup, ont créé un hiatus total avec la musique de Barber. Mais voilà, je dirais que voilà, l'apport principal de Menotti à la musique de Barber et à son œuvre, c'était vraiment dans les livrets d'opéra et le sens dramatique. Par ailleurs, plusieurs œuvres de Barber qui ne sont pas des opéras ont quand même une portée dramatique assez forte. Et je pense là aussi qu'on peut y voir la marque de Menotti, qui était du reste constamment sollicité par Barber pour donner son avis sur ses compositions. Les deux hommes fonctionnaient comme ça. Menotti montrait à Barber ses œuvres et Barber lui donnait son avis d'une façon assez franche, comme il savait faire, et ça marchait dans les deux sens.
Alors, vous avez parlé de la voix, donc il y a ces opéras, il y a aussi des chansons. D'où vient justement cette attirance pour la musique chantée?
Alors ça c'est vraiment, il faut voir dans la famille de Barber pour comprendre d'où vient cet amour du chant et de la voix, puisque sa tante était Louise Homer, qui était une grande chanteuse du Maine de New York, et qui lui a en fait très très jeune instillé l'amour de la voix, l'amour du chant, l'amour de l'opéra, qu'il a donc lui pu pratiquer en tant que chanteur pendant plusieurs années au Curtis Institute, et son amour de la voix était tel qu'en fait il a même participé à des concerts du Curtis. Il a enregistré plusieurs mélodies, notamment de Schubert, de Schumann, de Brahms. Il adorait aussi le folklore italien, il parlait couramment italien. Donc on lui connaît aussi plusieurs enregistrements de chants folkloriques italiens. Et puis il a enregistré son œuvre pour quatuor et baryton, qui s'appelle Dover Beach, opus 3. Cet enregistrement n'est pas du tout un enregistrement d'archives réservé à quelques chercheurs poussiéreux. C'est vraiment un enregistrement qui tient parfaitement la route, qui était un des disques préférés de Fischer Dieskau, qui a eu l'occasion de créer le dernier cycle de mélodies de Barber à la fin de sa vie. Mais Fischer Dieskau connaissait cet enregistrement de Dover Beach par Barber, et n'hésitez pas à dire que Barber aurait pu être un très très grand chanteur de mélodies.
Alors justement, mélodie, mais quand on écoute cette œuvre, on se rend compte effectivement que Barber est un mélodiste hors pair, assez hallucinant. D'où vient cette sorte de vénération permanente pour la mélodie? Il y a quelques exceptions, mais c'est vrai que globalement, c'est la mélodie semble primer.
Ouais, c'est-à-dire que l'écriture pour voix, en l'occurrence voix et piano, c'est vraiment le genre qui a traversé toute la carrière de Barber. Il a en général composé des œuvres ponctuellement. On lui connaît qu'une seule sonate pour piano, par exemple, une seule sonate pour violoncelle et piano. Un concerto pour chacun instrument, et puis chacune de ses compositions était réservée à une période de sa vie. La mélodie a vraiment, enfin ses premiers exercices quand il avait 6-7 ans, c'était des mélodies, et jusqu'à la fin de sa vie, il a composé des mélodies. Son amour pour la mélodie venait donc de son amour pour la voix, mais aussi de sa passion pour la littérature. Il était extrêmement pointilleux sur le choix des poésies, sur le choix des poètes. Il pouvait quand même passer des semaines et des semaines à chercher le bon poème à mettre en musique, qui durait peut-être 1 minute 30, mais qui était exactement ce qu'il cherchait. Et il disait lui-même qu'en fait, pour composer une mélodie, il ne pensait pas du tout à de la musique d'abord, il cherchait un poème, et c'est le poème et le texte du poète qui lui dictait sa mélodie. Tout partait des mots pour lui. Et ça c'est vraiment, c'était, enfin moi je connais peu de compositeurs aussi lettrés qu'a pu l'être Barber, qui vraiment dès son plus jeune âge se passionnait pour la littérature, pas seulement anglo-saxonne, hein, mais la littérature italienne, la littérature russe, la littérature française. On a des listes de, il se faisait des listes de lecture d'ouvrages à connaître absolument quand il avait 12, 13, 14 ans, et c'est quand même très très impressionnant. C'est-à-dire que c'est pas Harry Potter qu'il cherchait à lire, c'était plutôt la Divine Comédie dans le texte, ou les Tolstoï, Dostoïevski. Enfin, c'était vraiment un lecteur acharné, et cette passion pour les lettres, évidemment, a conditionné sa passion pour la mélodie.
Alors, ce qui est assez étonnant, c'est quand on voit cette œuvre, même si effectivement il y a des évolutions, des changements, il n'y a jamais vraiment de remise en question totale ou de changement de braquet, on va dire, violent par rapport à ça. Est-ce qu'il y a eu des tentations? Après, effectivement, on a parlé un peu de ce rideau final aux alentours de 66, avec il restait quand même 15 ans encore à vivre avant la fin de mourir. Est-ce qu'il y a eu des tentations parfois, des volontés? Comment qu'est-ce qu'il pensait finalement de tout ce qui se passait musicalement dans ces années 60, qui était assez active en termes de courants musicaux, de bataille d'Hernani, etc. C'était vraiment très violent.
Mais en fait, bataille d'Hernani, je ne suis pas si sûr que ça. Je pense que les batailles d'Hernani, elles avaient lieu en Europe. Mais finalement, aux États-Unis, il y avait une sorte de coexistence pacifique. Entre les différents mouvements. Peut-être parce qu'il n'y avait pas de gourou de la modernité qui lançait des zoukas comme un certain Pierre B en France. Mais Moi, la seule bataille d'Anani que j'ai croisée en travaillant sur La Vie de Barber, c'était en 38 pour son Adagio, donc créé par Toscanini, commandé et créé par Toscanini, qui a suscité, peu après sa création, une espèce de bataille par lettres interposées envoyées au New York Times entre les tenants d'une modernité qui était clairement désignée comme une modernité marxiste, c'est-à-dire qu'il fallait composer une musique pour les masses et en même temps une musique audacieuse, et puis les tenants d'une musique finalement accessible aisément au public, donc plutôt mélodique, tonale, romantique. Donc là il y a eu un affrontement, mais qui finalement a fait long feu, et par la suite les Feldman, les Crumb ont pu composer, pendant que les William Schumann et les Copland continuent aussi à composer. Il n'y avait pas vraiment d'opposition et rien en tout cas qui puisse se comparer à ce qu'on a pu connaître en France ou en Allemagne. Et Barber, de son côté, n'était pas complètement hermétique à l'évolution de la musique. Et chaque fois qu'il pensait que une évolution musicale pouvait rentrer dans le moule de la composition qu'il occupait à telle ou telle époque, il s'y essayait. Par exemple, dans sa sonate pour piano, il y a tout de même l'usage de séries de décaphoniques. Alors évidemment, la sonate pour piano, c'est années 50, donc on est quand même bien, bien loin après Schoenberg, mais il a essayé d'intégrer, et à mon sens avec pas mal de réussite, la technique d'écriture des 12 sons dans sa sonate, qui sonne par ailleurs comme une espèce de mixte incroyable entre Prokofiev, Scriabine, Rachmaninov, Schoenberg aussi, et qui pourtant sonne d'abord et avant tout comme du Barber. Par ailleurs, il s'est aussi essayé, parfois, à quelques dissonances qu'on n'imaginerait pas de la part de l'auteur de l'Adagio. Moi, il y a une œuvre que j'aime beaucoup, qui est un ballet qu'il a composé à la demande de Martha Graham, qui était aussi, à sa façon, une grande prêtresse de la modernité. Et je ne pense pas qu'il s'imaginait composer un ballet néo-romantique pour une danseuse comme Martha Graham. Donc, il a composé le ballet Médéa, qui est une œuvre extrêmement abrupte, âpre, dissonante, avec un travail sur le rythme que je trouve assez, assez fascinant et constamment stimulant. Donc, il pouvait aussi, c'était pas des changements de cap esthétique radicaux, et en tout cas à chaque fois qu'il a pu opérer un virage dans son style musical, c'était pas pour suivre une nouvelle direction de A à Z, c'était pour s'y essayer, puis après il essayait encore autre chose, mais pour autant son œuvre n'est pas hétérogène, il y a à mon sens une belle homogénéité qui peut éventuellement se traduire par ce sens unique qu'il avait de la courbe mélodique. Voilà. Et cette courbe mélodique, il pouvait, par exemple, la briser pour trouver les rythmes heurtés de son ballet Médée, mais il pouvait aussi la travailler avec beaucoup de sensualité, comme on le trouve dans ses mélodies, comme on le trouve dans une très très belle œuvre qui s'appelle Knoxville Summer of 1915, pour soprano et orchestre. Toute cette façon d'approcher la courbe mélodique, c'est du Barber, incontestablement, et en même temps, c'est du Barber qui est capable aussi d'intégrer de nouveaux éléments dans son écriture. Ce qui, pour moi, vraiment la rend l'écoute de ses œuvres extrêmement stimulante, et je pense que si son œuvre reste et résiste au temps, c'est grâce à ça, c'est grâce à cette espèce de constante et en même temps d'apport ponctuel d'éléments extérieurs parfaitement intégrés à son style. Thank you.
Comment se sont déroulées ces 15 dernières années de sa vie, cette spirale que vous décrivez, dépression, alcoolisme aussi, etc.
Vous avez pleuré en lisant...
Tout à fait, je préfère que vous en parliez.
C'est bien, c'est bien.
Et est-ce que justement, il y a quand même eu des instants où il aurait pu un peu revenir et refaire surface?
Alors, les instants où il aurait pu revenir, il y en a eu pléthore finalement, puisque lui se percevait comme une sorte de paria après l'échec de son opéra, mais il n'a eu de cesse
Est-ce qu'il se complaisait, ce qu'il aimait, un peu ce côté un petit peu de
il avait un côté,
héros, enfin,
il avait un côté
romantique, enfin voilà, romantique
c'est
qui
ça,
s'en
c'est
va
ça.
Seul, abandonné, décrié.
Exactement, et qui part méditer sur un rocher devant l'océan déchaîné. En l'occurrence, son rocher était en Italie et devant les montagnes, pas du tout déchaînées. Mais en fait, Barber n'a jamais cessé de recevoir des commandes. Et on peut même constater qu'après Antony et Cléopâtre, les commandes s'intensifient. Simplement, lui est tellement écœuré et dégoûté qu'il les rejette l'une après l'autre. Mais pour autant, il serait faux de dire que Barber n'a rien composé après son opéra maudit. Il a quand même composé pas mal d'œuvres qui sont très rarement données, et c'est vraiment dommage parce que quand on considère la cantate The Lovers d'après les poèmes érotiques de Pablo Neruda, ou quand on voit son troisième essai pour orchestre avec un travail rythmique là aussi assez extraordinaire, ou même ses derniers cycles de mélodies, on voit qu'il y a quand même beaucoup de choses à explorer musicalement. C'est très étonnant de constater par exemple que la cantate The Lovers n'est à ce jour disponible qu'en deux enregistrements, dont un, les deux étant assez anciens, mais un des années 70 je crois, et un qui date de 92, et ça fait quand même 20 ans qu'on attend qu'un chef, qu'un label, qu'un orchestre et qu'un chœur se décide à graver de nouvelles versions de cette œuvre-là, qui est absolument magnifique, incandescente, audacieuse, provocante, qui sonne parfois comme du Shostakovich. Enfin, c'est vraiment... Là, pour le coup, il y a tout un pan de l'œuvre de Barber qui doit encore être redécouvert et défendu, notamment au concert. Et de ses œuvres tardives, la plus souvent enregistrée, mais pas pour autant la plus connue, c'est la Ballade pour piano, son ultime composition pour piano, qui est une œuvre totalement énigmatique, déchirante, une sorte de question sans réponse pour piano seul, que moi je compare souvent aux dernières compositions de Schumann, les plus énigmatiques et peut-être celles qui sont les moins gratifiantes pour le pianiste, mais qui disent tellement de choses d'un point de vue poétique, philosophique, que vraiment, enfin voilà, c'est des œuvres qui méritent d'être découvertes et d'être jouées le plus souvent possible. Cette Ballade pour piano, elle est souvent enregistrée parce que depuis quelques années, on assiste quand même à une multitude d'intégrales de l'œuvre pour piano Barber où figure forcément cette ballade. Mais les œuvres plus importantes, le troisième essai pour orchestre par exemple, sont injustement oubliées. Il y a eu une très très belle version récemment publiée chez Stradivarius où le chef français Daniel Kauka dirigeait l'orchestre de la RAI. Magnifique version du troisième essai, mais au concert par exemple on l'entend absolument jamais, et c'est vraiment dommage.
Alors Pierre Brévignon, pour terminer cet entretien, trois questions peut-être attendues. Est-ce que vous arrivez encore à écouter la Adagio? Ça c'est la première. La deuxième, est-ce que vous avez quand même une version de prédilection de cette œuvre? Et la dernière, c'est sans doute la plus difficile. Si vous aviez une œuvre de Barber qui vous tient un peu plus à cœur que les autres, une sorte de petit doudou personnel, est-ce qu'il y en aurait une, sans faire évidemment de classement?
D'accord. Alors, pour la première question, disons que je partage ce point commun avec Barber, d'être assez rétif à l'Adagio. Barber, très rapidement, en gros, dès les années 40, a fait savoir qu'il en avait ras-le-bol, qu'on lui parle sans arrêt de l'Adagio. Il avait indiqué à ses amis que si des œuvres devaient être jouées lors de son enterrement, il ne voulait surtout pas que ce soit l'Adagio. Et bon, voilà, je partage un petit peu cet avis. Mais ça, c'est parce que je connais le reste de son œuvre et que je trouve l'Adagio presque, finalement, peu emblématique de la musique composée par Barber. Mais si j'avais une version vraiment préférée de cette œuvre-là, ce serait déjà dans sa version originale pour quatuor à cordes. puisque l'adagio est au départ le mouvement lent du quatuor de Barber. Et les Emerson, chez Deutsche Grammophon, ont gravé une très très belle version de cette œuvre-là. Beaucoup plus récemment, les Diotima chez Naïve ont enregistré un très très bel album de quatuor américain avec le Barber et une très belle version de l'adagio, mais une version très peu dramatique finalement, très apaisée et très sereine de l'adagio. On sait que pour beaucoup de personnes, cette œuvre-là est une œuvre extrêmement dramatique et noire.
Elle est déplatonisée, on va dire.
Mais finalement, ils l'ont déplatonisée et ils sont allés vers une interprétation qui me fait penser à ce que disait William Schumann de cette œuvre-là, à savoir que pour lui, elle illustrait non pas une scène de drame et de deuil et de mort, mais plutôt une scène amoureuse. Donc une sorte d'orgasme très satisfaisant. Et voilà. Donc c'est plutôt dans cette version-là, que les, cette perspective-là, que les Diotima l'ont enregistré. Et puis l'œuvre de Barber pour l'île déserte, je vais en prendre deux. Au cas où des gens viennent piquer mon œuvre numéro 1 sur l'île déserte, voilà, si elle n'est pas si déserte que ça ou s'il y en a deux, il y aurait Knoxville forcément, parce que c'est une œuvre qui parle essentiellement de nostalgie de l'enfance et qui parle aussi d'angoisse métaphysique. Et c'est évidemment immédiatement touchant. Donc cette œuvre-là me plaît énormément, et une version récente enregistrée par la chanteuse belge Anne-Catherine Gillet chez Eon est particulièrement recommandable. Et puis il y aurait le concerto pour violoncelle, qui est sans doute le concerto le moins joué de Barber, hein, son concerto pour violon est vraiment le plus souvent donné, piano également, mais son concerto pour violoncelle est une œuvre absolument sublime, qui est pour moi peut-être un des plus grands concertos pour violoncelle du XXe siècle, avec ce Shostakovich, pardon. Et si j'avais une version à vous recommander, ce ne serait pas celle d'Anne Gastinel chez Naïf, qui est très sage, mais ce serait plutôt celle de Yo-Yo Ma, qui est un peu ancienne, avec, je crois, David Zinman dirigeant le London Symphony Orchestra. Et cette version est absolument extraordinaire, explosive, poétique, lyrique, vibrante, elle est formidable.
Donc un concerto pour violoncelle qu'on peut d'ailleurs entendre sur
dirigé,
le CD
dirigé trouve, par Barber,
oui, dirigé par Barber, qu'on peut entendre effectivement
avec Zara Nesova
sur le CD qui se trouve donc avec ce livre, donc je rappelle Pierre Brévignon, ce livre qui s'intitule Samuel Barber, un nostalgique entre deux mondes, publié aux éditions Hermann. Merci Pierre Brévignon.
Merci à vous.
cobuzz.com. Rencontre par Marc Zisman.